C'est l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Bienvenue. Vous êtes au cœur d'un territoire vivant, niché dans des paysages que l'on dit caractéristiques. Ce territoire évolue tous les jours grâce aux femmes et aux hommes qui y posent des pierres, prennent des décisions, qui récoltent et sèment des plantes, qui se déplacent sur ces chemins. Derrière nous, des siècles d'histoire et d'intervention ont façonné le décor et nous voici, acteurs, consommateurs, à nous de jouer et de faire des choix, à nous d'agir ou pas, pour poursuivre la construction ou la déconstruction, tout simplement pour vivre au mieux ensemble sur cette géographie si particulière, le tout connecté au monde qui nous entoure et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Je vous propose le temps d'un entretien radiophonique d'évoquer ces liens si particuliers. Tentons de conjuguer l'action et le territoire en compagnie d'une ou d'un invité, de parler de nos paysages et de ce qu'on décide d'en faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François-Xavier Mousquet dans les locaux de Radio Barthas à Florac. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Eric.
François-Xavier, tu es architecte paysagiste, donc aujourd'hui installé dans le Gard, près du Vigan. Après un parcours professionnel, personnel, qui t'a amené à faire énormément de choses, notamment créer une agence de paysage dans le Nord, loin là-bas, de son nom d'ailleurs Paysage au pluriel. Donc c'est une agence d'architectes paysagistes, de conception d'espaces publics, des gens comme toi qui mènent, qui, des études, qui réfléchissent sur le paysage. Tes activités t'ont également mené vers la formation, tu nous parleras de ça, tu enseignes à l'école de Versailles, celle de Marseille, et également à travailler avec les gens qui partagent ta profession au sein d'une fédération, la Fédération Française du Paysage. Aujourd'hui, tu développes un nouveau projet, une nouvelle idée pour une approche plus humaine, plus pratique du projet. Bon, on va en parler tout à l'heure. Donc, je reçois donc aujourd'hui quelqu'un de très actif dans son métier. François-Xavier, nous allons évoquer ton action, ton regard sur le territoire. Pourquoi pas ton regard sur le territoire Cévenol. Et surtout de comprendre où et comment se passe la rencontre entre l'homme que tu es et l'esprit des lieux. C'est l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Alors tout d'abord, une première question. Dans ce 21e siècle de développement durable, d'économie de l'espace, de participation citoyenne, toutes ces thématiques qui naissent et qui prennent de l'ampleur, de patrimoine contemporain, d'héritage d'années de construction et de réflexion, ça veut dire quoi, être architecte paysagiste?
Bon, alors on commence par une question extrêmement vaste, donc je ne sais pas par quel bout l'attraper, mais il y a tellement de prises. La notion de partage, en tout cas, me paraît essentielle. Quand tu dis qu'effectivement on a créé une agence à Lille, d'emblée on a fait une coopérative, c'est une SCOP. Donc ça veut dire qu'on a travaillé, on a voulu reconduire dans notre activité professionnelle ce qu'on avait connu à l'école, c'est-à-dire la richesse d'un atelier sans hiérarchie autre que celle des compétences. Voilà. Donc quand quelqu'un a une bonne idée, on le suit. Si ensuite c'est un autre qui a une bonne idée, on le suit de la même manière. Voilà. Donc ça c'est mon attitude générale, elle est valable pour le paysage comme pour ma vie en général. Quoi. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Alors après ça, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, au 21e siècle, d'être paysagiste? C'est d'entretenir toujours la même curiosité, d'avoir la même humilité par rapport à la nature. Ça, c'est un élément essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu dans les Cévennes, parce que je suis originaire du Nord, de Lille. Et je manquais un peu de cette confrontation aux événements naturels, à l'opposition de la nature à l'homme. Et ici, on l'a bien. Donc, je suis assez content d'être dans ce paysage, parce qu'il n'a pas besoin de l'homme pour s'exprimer. Et l'homme a toujours eu besoin de composer avec, pour s'exprimer. Ça m'a amusé de voir la 75 qui était coupée parce qu'il y a eu un gros épisode et qu'il y a une buse qui suffisait pas parce qu'elle correspondait à un centième de ce qu'il fallait pour pouvoir évacuer.
Avec des images assez impressionnantes.
Voilà, et donc ça m'a amusé beaucoup parce que je me suis dit, mais il suffit de regarder les vieux ponts que faisaient les vieux Cévenols avec ces arches immenses pour se poser la question, se dire, il doit y avoir un problème ici pour que les ponts soient si grands alors qu'il n'y a jamais d'eau en dessous. Quand il y en a, il y en a. Quoi. Voilà. Donc j'avais besoin de ce rapport à la nature.
Ok, on y reviendra juste tout à l'heure, on reparlera un petit peu des Cévennes, c'est intéressant ce que tu commences à dire. Tu étais donc dans cette agence de paysage à Lille, en tant que paysagiste, tu as dessiné des espaces, tu as conçu des espaces, tu les as vus se réaliser. Est-ce que c'est ça le rêve ultime de tout étudiant en paysage qui sort de l'école? Est-ce que c'est voir se réaliser les espaces qu'on dessine?
Incomplètement. C'était ce qui m'animait à l'école. Et je me demandais si ça allait m'arriver un jour. Parce que quand on apprend, on se dit, mais alors quand est-ce que je vais enfin connaître ça? Voilà. Et donc déjà avoir la bonne idée, apprendre à l'école l'exaltation d'un projet. Parce que c'est un moment exaltant. C'est-à-dire entre le moment où on analyse un lieu, et on commence à le comprendre et on trouve tout d'un coup ce qu'il conviendrait d'y faire, et puis arriver à le mettre en image et se dire « mais mince, si ça pouvait se faire, parce que ça, ce serait génial ». Et ensuite, quand on arrive à faire, là, c'est effectivement un plaisir intense, et c'est celui qu'on espère trouver en sortant dans la vie active, et c'est celui que je transmets encore aujourd'hui aux étudiants.
Il y a un petit côté quand même, pas égoïste, mais disons très personnel, quoi. On est dans la création quasiment artistique.
Alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un métier artistique, mais un artiste n'a aucune commande sociale. Il répond effectivement égoïste. J'aime pas le terme égoïste.
Non, je l'ai dit exprès pour te provoquer.
Mais un artiste a besoin de s'exprimer. Voilà, il n'a pas d'autre commande. Il est totalement gratuit. C'est-à-dire, il est dans la recherche profonde de son rapport au monde, à la vie. Et alors que le paysagiste a une commande sociale. Enfin, c'est cet aspect-là du métier qui m'intéresse. Et donc, une commande sociale, ça veut dire à un moment faire taire la notion d'artiste par rapport à la notion de rôle social.
Et d'intérêt général.
Bien sûr.
Tu travailles pour les autres, en fait.
Voilà. Et l'intérêt général, et le grand plaisir, c'est d'arriver à trouver des convergences entre les intérêts privés et l'intérêt général. Parce que l'intérêt général n'a de sens que quand il permet l'épanouissement des individus. Voilà. Donc c'est une alchimie très compliquée d'arriver à concilier des choses qui sont par définition inconciliables. C'est-à-dire on ne peut pas à la fois satisfaire totalement l'intérêt général et chaque intérêt particulier qui sont tous différents. Et pourtant, il y a une piste dans tout ça. Et un projet réussi, c'est celui où on s'épanouit individuellement dans un espace public. Voilà.
J'en parlais dans mon introduction, tu as évolué vers d'autres formes de travail au sein de ce métier. Tu gardes le même métier, mais tu évolues au sein d'autres formes. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler différemment, à quitter cette agence?
Alors, plusieurs événements. La crise, qui est une chance. Enfin, qu'on peut prendre comme une chance, c'est-à-dire une nécessité d'évoluer. Donc 30 ans d'activité de concepteur paysagiste avec un appauvrissement de la commande qui fait qu'à un moment, je voyais les jeunes de la coopérative chercher ailleurs et j'ai dit, ben non, en fait, vous êtes l'avenir de cette coopérative, alors que moi, ben, je l'ai créée, mais je suis un peu fatigué de cette lutte permanente pour décrocher des marchés sur des critères qui ne sont pas forcément ceux du projet. Donc à un moment j'en avais marre, donc je voulais prendre une année sabbatique. Donc ce décrochage de l'activité au bout de 30 ans de métier passionnant, et sans vouloir quitter la notion de conception pour autant, m'a permis de voir qu'à un moment ils cherchaient un directeur pour un parc à Lille, le parc Mosaïque, que j'ai eu la chance de diriger pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, j'ai appris à travailler avec des jardiniers, c'est-à-dire connaître le métier, non plus du point de vue de la conception, mais de la gestion et de l'entretien. Et j'ai trouvé que les jardiniers avaient un potentiel de conception et d'imagination non exploité. Ils étaient très souvent confinés à des petites tâches d'entretien, comme les usiniers, les ouvriers qui travaillaient à la chaîne dans les usines avant, c'est-à-dire un côté un peu désimpliquant. Et je me suis dit, en fait, non, ils ont des envies, ils ont une culture, c'est des individus, il y en a qui sont plus écolos, d'autres qui travaillaient, il y en avait un qui travaillait dans les cimetières militaires, qui avait un sens aigu du soin absolu, donc c'était pas spécialement écolo, mais c'était magnifique. Il y en avait d'autres qui adoraient le tressage, et essayaient de travailler avec la nature et la pousse du bois, donc voilà, ils avaient chacun leur passion, et en fait j'essaie de travailler à ce que j'ai appelé la gestion créative. Et j'ai essayé pendant 2 ans de refaire des connexions entre la conception et la gestion. Et le parc Mosaïque est un peu particulier, c'est un jardin très intéressant près de Lille, qui est le jardin des cultures, où en fait dans ce grand parc de 30 hectares, il y a 10 jardins faits par des concepteurs paysagistes internationaux, et j'ai proposé à chacun de ces concepteurs de venir rencontrer les jardiniers. Et pendant une demi-journée, on travaillait ensemble, le paysagiste racontait ce qu'il voulait faire, et les jardiniers racontaient aux paysagistes leurs difficultés ou leurs plaisirs, toutes les questions qui se posaient à propos de cet entretien du jardin. Et donc cette connexion était vraiment bien reçue des deux côtés.
Tu as recréé le lien entre la personne qui conçoit l'espace, qui est sur sa planche à dessin, qui imagine l'espace, mais sans en connaître forcément la gestion au quotidien, et les jardiniers qui, eux, sont sur le terrain et qui réalisent et qui entretiennent.
Voilà. Alors, c'est dommage de devoir recréer un lien qui devrait exister de fait.
Exactement.
Parce qu'il y a... Mais effectivement, il y a un fossé entre ces deux aspects du métier. Et les paysagistes travaillent derrière des ordinateurs, rencontrent des élus, des directeurs de services techniques. Mais ce n'est pas ceux-là qui entretiennent. On a un mal fou à effectivement rencontrer les jardiniers. Il y a certaines communes qui en ont conscience et qui permettent de le faire. Et puis les jardiniers, très souvent, j'ai eu des remarques du style « Ah oui, c'est facile de dessiner, mais après ça, il faut le faire le truc, et puis il faut l'entretenir. Hein. » Et voilà, donc il y a une espèce de méconnaissance et de méfiance des deux côtés.
Donc c'est un peu ça le sens de ton nouveau projet, c'est de redonner les clés de la conception des espaces à ceux et à celles qui les entretiennent.
Oui. C'est-à-dire, la motivation, j'ai une phrase fétiche, moi, c'est « il n'y a pas de jardin sans jardinier ». C'est-à-dire, j'ai eu la chance de faire un jardin dans un hôpital, peu de temps après être passé à l'hôpital. Donc, je suis resté une semaine au lit, et j'ai réalisé pendant cette semaine que je rêvais de mon jardin. Voilà. Et tout d'un coup, j'avais conscience de l'importance de pouvoir aller mettre les mains dans la terre, être en contact avec l'humidité de la rosée du matin, l'odeur des fleurs, n'importe quoi. Et en fait, l'acte de jardiner est presque plus important que le jardin. Et quand j'ai fait ce jardin dans cet hôpital, c'était un jardin très compliqué puisqu'il montait à 15 mètres de haut, c'était un escalier de secours entièrement planté. Donc c'était un jardin vertical.
D'accord.
Et donc les jardiniers que j'ai rencontrés à cette occasion avaient un peu peur, et je leur disais mais non, il faut pas avoir le vertige, il faut monter dans cet escalier, et ce qui est important c'est que vous y passiez, quoi qu'il arrive, vous y passez régulièrement. Parce que vous êtes sous les fenêtres de l'hôpital, c'est le CHR à Lille, un grand ouais. Hôpital, et les patients, les malades vous voient. Et vous êtes plus beau que les fleurs. Je leur disais, un jardinier est plus beau qu'une fleur parce qu'il s'en occupe. Et pour un malade, c'est essentiel. Et on s'est amusé comme des fous parce qu'effectivement, mon projet a été presque plus de former les jardiniers à l'entretien de ce jardin que de faire le jardin proprement dit.
Je te propose du coup de parler, d'enchaîner sur justement le projet que tu es en train de mettre en place aujourd'hui. C'est justement la continuité de ces réflexions, de ce travail avec un souhait de travailler avec les jardiniers, des collectivités ou autres, mais pour créer les espaces avec eux.
Oui, donc ça c'est ce vers quoi j'ai envie de m'orienter. C'est quelque chose de beaucoup plus... petit que ce que j'ai pu faire, parce que j'ai eu la chance de faire des concours internationaux. On a travaillé à Paris, à Bruxelles, un peu à l'étranger, au Vietnam. Enfin, vraiment, j'ai eu l'occasion de faire des projets qu'on appelle héroïques, que je ne regrette pas, qui étaient passionnants. Et en même temps, tous ces projets héroïques n'avaient de valeur. Le dernier en date, enfin, un auquel je tiens particulièrement, c'est le lagunage à Arnes, qui est un projet qui a eu droit au prix européen du paysage à Barcelone. Et en fait, ce prix, on ne l'a eu que parce qu'il est parfaitement géré par Franck Chevalier, qui est le gestionnaire de ce lagunage à Arnes. Arnes, c'est dans le bassin minier, hein, donc un lagunage, c'est l'épuration de l'eau par les plantes. Et en fait, ce jardin est magnifique parce qu'il est bien entretenu. Donc ça, c'est ma motivation. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les jardins bien entretenus sont plus importants que les jardins bien dessinés s'ils sont mal entretenus. Je préfère un jardin mal dessiné, bien entretenu. Alors que j'ai passé mon temps à dessiner. Donc j'ai envie d'amener les jardiniers à concevoir. Alors ils ne vont pas dessiner parce que ce n'est pas leur outil. Ils sont plus à l'aise avec des outils un peu plus gros.
Tu es là pour ça ?
Donc je suis là pour ça, mais en même temps j'ai envie vraiment d'être le plus effacé possible derrière l'acte
créatif.
C'est
toi qui tiens le crayon, en fait.
Alors je ne vais pas forcément tenir le crayon, je vais leur faire tenir la truelle, la pelle, on va faire des maquettes. Et les maquettes, ils vont les faire eux-mêmes. Et je vais, parce que j'ai vraiment, il faut que je fasse taire mon envie, enfin j'ai mon envie de transmettre celle-là, je peux l'exprimer au maximum. Par contre, il faut absolument que se réveille chez chaque individu qui a en charge un espace son envie, parce que s'il a l'occasion d'exprimer un moment, d'aller au-delà, explorer son potentiel de conception.
Parce que ce sont souvent des individus qui n'ont pas l'habitude qu'on leur donne les clés de la conception d'un paysage ou d'un espace.
Oui, mais pas seulement eux, hein, ça dit que ça c'est vraiment un travers français. Y a une phrase horrible qui dit « les goûts et les couleurs, on n'en discute pas ». Chaque fois que je prends un crayon avec quelqu'un qui a envie de m'expliquer quelque chose et qui prend le crayon, à peine il a pris le crayon, il dit « Ah mais en fait, vous savez, je sais pas dessiner ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de blocage qui a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à exprimer. Il faut un moment, effectivement, ouvrir ce champ et autoriser. Il faut s'autoriser. Donc moi, je suis là pour autoriser.
Donc François-Xavier, là, tu es aujourd'hui, tu te considères comme paysagiste formateur ?
Oui. Voilà. Alors formateur, je suis de fait puisque j'interviens dans les écoles de Versailles, de Lille, un petit peu à Marseille aussi. Voilà. Donc.
Mais auprès des jardiniers également, c'est ta position officielle aujourd'hui. C'est celle que tu revendiques au EFA.
Voilà. Alors ça démarre tout juste. Hein. Pour l'instant, j'ai du mal parce que c'est très difficile parce que les jardiniers dépendent d'organismes de formation et il faut que je me mette d'accord avec ces organismes pour ne pas le nommer le CNFPT qui est un organisme officiel mais pas le seul. Pour les collectivités et donc il faut effectivement que j'arrive à rentrer dans ces quelques cases pour pouvoir ensuite faire le métier dont je rêve là, qui est effectivement de former les jardiniers à de la conception. Alors ce sera de la conception du quotidien, de la conception sans, là on sera pas dans l'héroïsme, on sera dans le plaisir d'être dans un lieu un peu au quotidien. Voilà.
Très bien, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Nosfell qui chante Guz Mandanas. Din gir 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 go pow bit gir go go kay li da grap pas di do da gir 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 cuz you da gor gir gir cuz do the do da rush the black unveil the path end sustained our fate with nonsensical sentences at the surface of the river glance he said whistle on the taboos of a mystified ethy chancellor dancing around the working loom. He said, I wish that you could ever read what's on my mind. I wish that you could ever glow sometimes within those exultants above the river glance. And my prick is what you feel. Torn tasks, machines, all tainted properties. The looming chancellor swings among the manga women leaves. This taste for sweet noise delivers the disease. Men in those lands of wasted words, we pray for a silent wind and sing. I wish that you could ever read what's on my mind. I wish that you could ever glow sometimes within those exultants above the river glance. And my prick is what you feel. Well,
mind. And I wish that you could have a glow sometimes. Within those days I don't bother with a glimpse. And my prick is what you'll feel, feel. I wish that you could have a read what's on my mind. And I wish that you could have a glow sometimes. Within those days I don't bother with a glimpse. And my prick is what you'll feel, feel. I wish that you could have a read what's on my mind. And I wish that you could have a glow sometimes. Within those days I don't bother with a glimpse. And my prick is what you'll feel, feel. I wish that you could have a read what's on my mind. And I wish that you could have a glow sometimes. Within those days I don't bother with a glimpse. And my prick is what you'll feel, feel.
Nous sommes toujours avec François-Xavier Mousquet, architecte paysagiste, et on est en train de parler de pierre sèche. François-Xavier, c'est comme ça que tu es arrivé dans les Cévennes, en montant des murs de pierre sèche.
Oui, effectivement. Alors j'ai un très bon ami qui est ici dans les Cévennes, qui est un grand paysagiste, c'est Michel Pena. Il a un mas ici, dans le nord des Cévennes, à la limite de l'Ardèche et du Gard, et de la Lozère. Je crois qu'il est vraiment à la jonction des trois départements. Et voilà, il a acheté ce mas il y a un peu plus de 20 ans. Et puis voilà, il était amoureux de ce terrain et il a transmis un peu cette foi. Et j'ai eu la chance de remonter quelques murs avec lui. C'était mon premier rapport aux Cévennes, c'était de remonter des murs de pierre sèche. Et il en a des centaines, il en a des kilomètres.
Des kilomètres, on est là devant un paysage très caractéristique du lieu. Quel regard, toi, tu poses sur ce territoire, sur ce paysage ?
Alors, je l'ai un peu dit au début, ce que j'aime beaucoup dans ce paysage, c'est qu'il s'exprime assez violemment. Donc, on est confronté à une nature assez sauvage. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des sangliers qui viennent labourer tout ça, qu'il y ait des épisodes cévenols qui passent leur temps à démolir les routes qu'on remonte indéfiniment. J'ai fait arriver en retard parce qu'on est en train de retaper une route sur la route là. Voilà, donc c'est un paysage qui me fascine, que je connais pas bien. Et voilà, donc je suis un paysagiste du Nord, séduit par ce paysage que je ne connais pas bien et j'ai envie de le connaître.
Mais justement, devant ce paysage torturé géologiquement, un paysage primitif, naturel, que tu es en train de décrire, qu'est-ce que peut apporter l'architecte paysagiste ?
Alors, principalement l'écoute. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir appris le paysage avec des professeurs, et notamment Bernard Lassu, qui a insisté énormément sur l'analyse, l'écoute. C'est-à-dire que l'invention, c'est pas une soucoupe volante qui se pose comme ça sur une feuille blanche. C'est au contraire comprendre que tous les germes d'un projet sont dans le territoire et dans les hommes qui l'habitent, et que ensuite on arrive à les faire éclore. Voilà. Donc pour pouvoir faire éclore quelque chose qui germe, qui est prêt de germer dans un territoire, il faut commencer par l'identifier. Donc il faut écouter. Et donc je pense que c'est ça qu'on peut apporter en tant que paysagiste. C'est une intelligence de l'écoute, une acuité du regard, de la compréhension des choses qui fait qu'à un moment, le projet ne va pas tomber du ciel, mais au contraire, il va pousser du sol. Voilà. Donc,
Et c'est ce qui fait que ton projet, ton approche des lieux, même si tu les connais peu ou pas bien, est différente et s'adapte au territoire.
Oui, c'est vraiment la spécificité du paysagiste, c'est d'arriver à comprendre les lieux. On peut se poser la question de la légitimité, c'est-à-dire pourquoi suis-je capable et autorisé à faire des projets de paysage en Cévennes ? J'ai fait des projets en Bretagne, j'étais pas plus légitime.
À l'étranger également.
Voilà, mais j'habitais à Lille. Et est-ce que j'étais légitime pour travailler dans le village d'à côté ? À ce moment-là, on peut aussi se poser la question. Quel est le territoire légitime ? Alors effectivement, j'ai eu la chance aussi d'aller au Vietnam et travailler dans le centre Vietnam. J'étais pas davantage légitime. Par contre, j'étais un des rares paysagistes à essayer de comprendre ce que c'était que la géomancie, puisque les projets vietnamiens, asiatiques, s'appuient sur la science géomantique, c'est-à-dire l'équilibre entre le tigre blanc et le dragon d'azur. Il faut comprendre ce que c'est, et ce sont des façons d'écouter un territoire avant d'intervenir. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans la géomancie, à laquelle je crois pas plus qu'à autre chose, c'est simplement un prétexte à écouter les lieux avant d'intervenir. Et alors, les prétextes sont culturels, ils sont historiques, ils sont écologiques, ils sont politiques.
Poétiques également.
Poétiques, forcément. C'est le plus important. En fait, tout est poétique. C'est-à-dire que quand j'écoute un politique, j'ai une écoute poétique du discours politique. Il n'y a que comme ça que je peux me l'approprier et que ça peut devenir un paysage.
Ici, on est face à un paysage principalement forestier, agricole. Malheureusement ou heureusement, c'est l'évolution du territoire. La part agricole tend à disparaître. On parlait des murets de pierre sèche, des bancelles, des terrasses que l'on doit réhabiliter. C'est des ouvrages qui étaient entretenus par des centaines de personnes auparavant. On refaisait ces murets, on les remontait, on les exploitait. Aujourd'hui, cette exploitation est déficitaire sur ce paysage. Comment tu vois cette évolution ? Est-ce qu'il faut se battre pour revenir à un paysage qu'on peut regretter ? Ou est-ce qu'on, finalement, tu es partisan de dire c'est la société qui est comme ça, on laisse faire les choses et on voit quel type de paysage on redéveloppe sur ce territoire ?
C'est un peu des deux. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'on se batte, mais pas contre. On se bat pour. Donc quand on constate qu'il y a une dynamique d'abandon, une dynamique d'abandon, c'est toujours une dynamique de renaissance. Dans le Nord, j'ai eu la chance de travailler énormément sur les friches industrielles. C'est passionnant, les friches, parce que ce sont les lieux les plus déconsidérés, les plus abandonnés, dans lesquels on a la nature la plus forte. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la nature la plus forte ? C'est l'expression d'une renaissance naturelle intense. Et les projets que j'ai faits sur les friches dans le Nord travaillaient sur l'écologie comme dynamique principale de reconquête, puisque la dynamique naturelle de la renaissance. On peut se poser les mêmes questions sur un territoire habité. Un territoire habité, il a des épisodes. L'Aigoual a d'abord été complètement désert, et puis Fabre est arrivé avec Flao et ils l'ont entièrement replanté. Et aujourd'hui, l'Aigoual est trop fermé. C'est-à-dire que ce sont des épisodes. Je ne sais pas si c'était bien quand c'était désert, je ne sais pas si c'est mieux quand c'est entièrement reboisé. On accompagne tout ça. Ce qui est important, c'est que ça vive, effectivement. C'est merveilleux quand je vois toutes ces bancelles, effectivement, ces faïs ou ces terrasses qu'on a ici. Parce qu'elle représente 10 fois les pyramides d'Égypte, on n'en parle pas. En fait, on a un paysage héroïque que personne ne connaît, que personne ne sait. Et en fait, les sangliers détruisent tout ça en ce moment, les châtaigniers sont abandonnés, certains sont à nouveau cultivés, mais les bancelles actuellement sont plus ou moins restaurées lorsqu'on refait de l'oignon. Donc il y a des prétextes aujourd'hui qui sont intéressants parce qu'ils réouvrent. Moi, j'aime bien quand le paysage est ouvert. Je suis plutôt séduit par le cause que par la forêt cévenole. J'aime bien, c'est peut-être mon travers de paysage nordiste, j'aime bien quand le regard peut s'éloigner jusqu'à l'horizon. Et donc, je suis un peu oppressé dans la forêt. Donc, j'aime bien quand ça s'ouvre un peu. Et pour que ça s'ouvre, effectivement, c'est bien qu'il y ait du pâturage. Mais le pâturage, il se fait aussi sous les arbres. Voilà, donc il y a plusieurs formes de... Toutes ces dynamiques-là sont vachement intéressantes parce qu'effectivement, elles sont à la convergence des intérêts de l'être humain, de la société et de l'écologie. Voilà.
Mais il faut que ça ait un sens, il ne faut pas que ça soit une intervention artificielle.
Oui, alors l'artificiel, moi, ne me dérange pas non plus parce que l'artificiel a du sens. Une œuvre d'art est artificielle. Elle est éminemment sensée. Si cette œuvre d'art est en résonance avec un territoire, parce qu'elle est parfaitement bien implantée, parce qu'elle interroge sur le sens d'un lieu, ben c'est merveilleux. Donc l'artificiel, moi, ne me dérange pas. Les faïs, les bancelles sont complètement artificielles.
Tu me fais penser à une intervention artistique qu'on pourrait engendrer, c'est-à-dire on convoque 10 personnes pour défricher 2 hectares de bancelles et retaper des murs pendant un week-end, et on a créé une œuvre d'art.
Ah, ça, ce serait tout à fait passionnant. Voilà, donc ça, s'il y a un projet de ce type-là, je m'y engage très volontiers.
Ça relancerait peut-être le débat sur justement l'ouverture des milieux, le paysage, à quoi ça sert, quelle est sa fonction. Là, ça serait, je pense, assez même provocateur.
Oui, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est de s'autoriser. C'est-à-dire, ce n'est pas de la remise en scène historique. Refaire les bancelles, c'est intéressant de les refaire au XXIe siècle. Donc, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Si c'est pour que ça reparte en friche ou qu'on dépense des sous indéfiniment, simplement pour les maintenir en l'état alors qu'elles ne servent à rien, ce n'est pas très intéressant. Retrouver une activité agricole, oui, mais retrouver une autre activité, qu'elle soit touristique, qu'elle soit culturelle, pourquoi pas. Enfin, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est lorsqu'il y a convergence entre plusieurs intérêts. Un projet est d'autant plus intéressant qu'il a ce qu'on appelle un large spectre, comme les médicaments ont des larges spectres en pharmacie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quel est le principe qui sera actif, donc on en a plein et il y en a bien qui marchera dans le tas. Le paysage, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur plusieurs objectifs. Il y en a bien dans le tas qui marchera.
François-Xavier, on voit que tu as un regard... poétique, on en a parlé, politique peut-être, engagé, très complexe et complet sur le paysage. Est-ce que ce regard, est-ce que cette action, elle est devenue difficile aujourd'hui dans un contexte réglementaire de marché public, de lois, de normes qui s'est développée de manière très extensive ces dernières années?
Oui, alors je suis assez critique effectivement par rapport à ça. Alors je vais essayer.
J'en étais sûr.
Voilà. Alors je vais essayer de me retenir quand même.
On est sur une radio libre.
Voilà. Donc c'est vrai que si une des raisons aussi pour lesquelles j'ai quitté l'agence à Lille, c'est que j'étais fatigué des démarches pour atteindre les projets par les marchés publics. Je suis pour les marchés publics, c'est important, c'est nécessaire. Je suis pour leur transparence, mais avec tous les La batterie de normes, la batterie de contrôles en tout genre qui ont été mises en place sous prétexte de transparence, on a fabriqué une machine énorme et le projet n'a plus la place de s'exprimer. C'est ça qui m'exaspère aujourd'hui, c'est que les filtres qui, au nom du marché public et de sa transparence, les filtres mis en place pour arriver à faire un projet sont tels que le critère même du projet est complètement noyé dans des tas d'autres critères de normes qui me fatiguent parce que je les considère un peu comme parasites. Même s'il y en a certaines qui sont nécessaires, il y en a trop, donc elles sont parasites. On me disait, les contrôleurs aériens, quand ils font grève, ils font pas grève en arrêtant de travailler, ils font la grève du zèle. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de normes à respecter que s'ils les appliquent toutes, il n'y a plus un seul avion qui décolle ni n'atterrit. Le paysage, c'est un peu la même chose. Si on applique toutes les normes, à un moment, on n'arrive plus à faire de projet. Donc, je pense qu'il faut à un moment retrouver un peu de bon sens. J'ai eu la chance de démarrer il y a un peu plus de 30 ans avec avec des concours internationaux où il n'y avait pas toutes ces normes. Et où on a eu la chance, sans être connu, sans faire le moindre lobbying, on a eu la chance de gagner. Donc le parc Roi Baudouin à Bruxelles, on l'a gagné sans être connu. On a le parc de la Villette à Paris, on a été dans les mentions spéciales sans être connu. Simplement, on avait accès à ces projets. Aujourd'hui, je me demande comment les jeunes paysagistes qui sortent de l'école peuvent encore avoir accès. Ils sont obligés d'être paternés par d'autres paysagistes ou d'autres architectes qui, eux, ont maintenant le droit de s'exprimer. Ça m'exaspère un peu tout ça, parce que effectivement, moi, je suis pour une expression la plus directe et la plus brute possible, et je pense que la transparence est là aussi. Voilà.
Et de l'autre côté de la caméra, côté maîtrise d'ouvrage public, c'est devenu extrêmement compliqué également, notamment pour les petites collectivités, pour les petites communes, qui doivent manipuler un arsenal juridique et avoir des compétences réglementaires hors normes. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, la difficulté se passe d'un côté, mais également de l'autre, côté maîtrise d'ouvrage et côté maître d'œuvre.
Ah oui, absolument. Et j'admire les maires parce que je trouve qu'ils ont ils ont une telle charge que je suis encore étonné qu'il y ait encore des maires qui se présentent aux élections. Mais on va finir par ne plus en avoir parce qu'effectivement, les normes leur pèsent autant qu'à nous. Et voilà. Mmh. Donc si on arrivait à assouplir, retrouver un peu de bon sens. Et effectivement, la transparence, elle est essentielle. Moi, je suis pour que les marchés soient honnêtes, que les démarches soient honnêtes, sans pour autant se barder de tas de systèmes de contrôle qui, finalement, ne garantissent pas en plus l'honnêteté. Parce que les gens qui ne sont pas honnêtes trouvent toujours des failles et, au contraire, sont encore presque plus à l'aise dans ce fratras de normes.
J'essaierai d'interviewer un élu local pour qu'il nous donne son avis sur cette question bientôt. Une dernière question, François-Xavier, pour clôturer cet entretien passionnant. Le paysage, il t'a fait naviguer entre une démarche intellectuelle, entre la formation, donc l'écoute, comme tu le disais, mais également la parole, le discours, mais également une envie de pratiquer, de manipuler les outils sur le terrain. Moi, c'est ce que je vois également quand je discute avec des très jeunes paysagistes qui sortent de l'école. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer récemment. Ils sont certes attachés à leur logiciel, à leur petit portable, à leur plan, au dessin, mais ils ont envie de manipuler des branchages, de faire du saule tressé, de participer à des petits concours, mais vraiment d'aller sur le terrain. Est-ce que ça, pour toi, c'est la réussite du métier, c'est de voir justement la double approche se développer et une volonté d'être autant sur une démarche prospective, presque philosophique, poétique, intellectuelle, mais également de faire.
Oui, bah là, je partage complètement les rêves des étudiants, parce que c'est ce vers quoi je tends aussi. Donc, trouver un rapport plus direct à l'acte, au travail du sol. Avoir autant de bêches et de pioches que de crayons et d'ordinateurs. Voilà, ça, je pense qu'on réfléchira d'autant mieux qu'effectivement, on connaîtra le poids de la terre quand on dessinera un talus. Voilà.
Merci François-Xavier Mousquet, c'est une chance de t'avoir sur le territoire.
Bah merci Eric.
Comment peut-on te joindre si des gens veulent te joindre et communiquer avec toi?
Ah ben, je suis près du Vigan, hein, dans un tout petit village qui s'appelle Besse et Sparron. Et mon téléphone, je peux le donner.
Hein, on le mettra, je pense, sur le site de Radio Barthas si les gens veulent te contacter.
Très volontiers.
Des gens ou des collectivités.
Merci.
Merci beaucoup. C'était l'Esprit des lieux sur Radio Barthas. À la technique, nous avions Aurélien. Et à l'écriture et animation, Éric Dessaulier. L'émission sera rediffusée dans 15 jours. Même jour, même heure. Le mois prochain, nous recevrons Sandrine Sandrier, des associations Réel 48 et Habitat Durable en Cévennes. À bientôt !